Juste apporter une précision concernant les réaménagements dans les blocs opératoires. Là. Mm-hmm. Donc, le délestage, ça a commencé il y a 3 semaines.
OK.
Oui, et il y a plusieurs médecins là, qui m'écrivent me dire ça. Donc, ça a commencé vraiment là depuis 3 semaines. Et que c'est sûr que là, ça s'est intensifié. Puis je le vois aussi par les courriels que je reçois de gens qui se font reporter une intervention. Et là, on opère vraiment, vraiment, vraiment que des cas majeurs actuellement. Deuxième sujet. Alors, la sortie de crise, ça va se passer comment?
Bien, écoute, je pense qu'il va y avoir, dans un premier temps, des gestes à poser rapidement. Certains maillons faibles qu'on voit aujourd'hui dans notre système. Premièrement, naturellement, la solidification de notre chaîne d'approvisionnement, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau médical. Puis pendant la pause, quelqu'un m'écrit pour me dire, effectivement, il y a des entreprises québécoises qui travaillent pour nous aider, mais ça fournit pour l'instant le fédéral et ça fournit pour l'instant les entreprises privées parce qu'il n'y a pas de commande qui vient aujourd'hui du ministère de la Santé. Alors ça, il va falloir clairement s'attaquer à ça. Et on voit à quel point aussi l'industrie médiatique est importante. Hein? On s'en va pas sur les sites étrangers pour savoir ce qui se passe chez nous. Les codes d'écoute sont en hausse partout, dans les radios, dans les magazines, dans les sites Internet. Alors, je pense que cet élément-là va être important. La question des maillons faibles aussi au niveau social, on se rend compte que notre société est aussi forte que son maillon le plus faible. L'itinérance, la pérennisation du financement des organismes communautaires, on en parle souvent. La DPJ, il va falloir régler ce problème-là une fois pour toutes. Bien entendu, le salaire des préposés aux bénéficiaires. Ces gens-là sont tellement importants en ce moment dans le système. Et quand on sait que le gouvernement du Canada arrive avec un plan d'urgence de 2000 $ non imposable, ça représente un salaire plus important que le salaire minimum au Québec. On détermine qu'un montant minimum là, d'urgence, c'est 2000 $. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on ait une très bonne réflexion. Et finalement, structure permanente en gestion de crise. On peut pas se permettre de faire de l'improvisation une seconde fois. Si quelque chose comme ça se reproduit dans 5 ans, dans 10 ans, ça va nous prendre vraiment des plans clairs, précis, pour pouvoir réagir rapidement et efficacement.
Luc? Mais moi, j'ai été un peu inquiet d'entendre Legault dire, dès qu'il a mis une cellule de crise avec 4 ministres, donc... le ministre des Finances, le ministre du Développement économique, le ministre de M. Girard, M. Fitzgibbon, M. Dubé, puis monsieur, l'autre il me manque.
M. Boulay,
du ministre du Travail, oui. Et qu'ils allaient analyser toutes les dépenses prévues par le gouvernement en fonction du développement économique. Ça me fait peur parce que dans le dernier budget, il y avait des belles choses pour beaucoup de groupes qui souffrent depuis longtemps. On l'a dit, des centaines de millions pour la DPJ, qui en a bien besoin, le soutien aux familles pour les personnes handicapées, surtout lorsque ces personnes-là passent à l'âge adulte, les soins à domicile pour les personnes âgées, la violence familiale, le décrochage scolaire, et j'en saute. Et ces soins-là et cet argent-là qu'on donne à ces personnes-là, c'est du développement économique. Ça se retrouve dans l'économie québécoise et même, ça se retrouve encore plus dans l'économie québécoise que les projets d'investissement privé parce qu'aujourd'hui, et depuis des années, la plupart des projets d'investissement privé viennent souvent avec des crédits d'impôt. Donc, j'ai investi tant de millions, mais je vais avoir des crédits d'impôt qui représentent 40 % du salaire. Donc, pour l'État, il n'y a pas beaucoup de retour immédiat. Là. Tandis que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un à DPJ, là, c'est 100 % de son impôt que tu récupères. Alors, moi, j'aime pas cette distinction-là entre projet de développement économique puis projets sociaux. Il y a des projets sociaux qui sont des projets de développement économique. L'autre chose, c'est que, mon Dieu, ouvrez les fenêtres, faites rentrer de l'oxygène. Là. Les 4 personnes qu'on a nommées là, sont très bien, sont très compétentes. Là. Mais on n'aura pas des milliers d'occasions, des dizaines d'occasions, disons, de faire des opérations de relance. On dépense des milliards, on ne dépensera pas des milliards à tous les 3 ans. Là. Alors, il faut qu'on le fasse de façon la plus intelligente, la plus visionnaire possible. J'ai beaucoup aimé Sylvain Gaudreau qui a dit « ça nous prend un plan Marshall », c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme société, qu'est-ce qu'on va vouloir investir, est-ce que c'est le transport en commun, est-ce que c'est le réaménagement du territoire, est-ce que c'est l'environnement, mais posons-nous ces questions-là ensemble comme société, pas juste 4 ministres qui vont passer le programme de la CAQ en revue puis vont se demander qu'est-ce qu'on retient puis qu'est-ce qu'on retient pas. Il faut aller plus loin que ça.
Oui, j'achète ce que tu dis, Luc. Ça nous prend de l'ambition, de la vision. Puis le plan Marshall auquel faisait Sylvain Gaudreau, faisait référence Sylvain Gaudreau, ça peut représenter bien des choses. Il va falloir qu'on prenne notre temps, qu'on ait des outils pour nous permettre de prendre des décisions lucides pour s'assurer qu'on crée pas des effets pervers comme une surchauffe trop importante dans notre économie, que toutes les régions soient visées adéquatement. Mais une chose qui m'apparaît importante, c'est qu'on va avoir des changements, je pense. dépenses majeures dans notre façon de voir les choses. D'abord, consommer localement. On a vu M. Legault faire un appel à la population. Il y a deux choses que tu peux faire pendant la crise. Un, t'isoler. Deuxièmement, aider l'économie d'ici. Alors ça, je pense que ça va être pérenne. Il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on peut ramener de la production ici, comment est-ce qu'on peut mieux développer nos industries localement. Et l'autre élément, puis il faut pas passer à côté, ce serait tellement dommage, on était si bien parti qu'on laisse de côté un plan ambitieux au niveau de l'énergie verte, puis au niveau du transport électrique, puis au niveau du transport en commun. Tu as fait référence.
J'espère que ça va se faire. Moi, je vais vous raconter une petite histoire montréalaise sur le développement économique. Quand il y a eu une grosse crise de chômage au tournant des années 90, puis là, après ça, Doré est arrivé, puis il avait décidé de faire deux grands technoparcs. Le technoparc de Ville-Saint-Laurent, puis le technoparc entre l'Île-des-Sœurs et le Vieux-Montréal, là, sur le bord de l'eau. Ces technoparcs-là là, sont restés vides pendant des années. Et à coût de dizaines de millions de dollars, on a équipé ces technoparcs-là de routes, d'infrastructures, etc. Pendant le même temps, le gouvernement fédéral avait mis de l'asphalte sur le gazon le long du canal de la Chine. C'était une piste cyclable, là, une des premières pistes cyclables, et qui permettait aux gens de Montréal d'aller jusqu'au lac Saint-Louis. Ben, ce petit parc de rien, le canal de la Chine, là, avec le temps, là, est devenu un moteur de développement économique extraordinaire, avec du développement immobilier, du développement de l'emploi, des nouveaux quartiers qui sont apparus, parce que c'était un lieu de vie, parce que c'était un endroit où les gens avaient envie d'aller. Le développement économique n'est pas toujours là où on pense qu'il va être, dans de l'asphalte, dans du pétrole, dans de la garnotte. Il est parfois aussi dans l'investissement au cœur de nos paysages, puis au cœur de nos quartiers, puis ça peut générer des dizaines de millions. C'est pour ça que je dis que ça prend de l'oxygène puis de l'ouverture. C'est pas juste M. Boulet et M. Fitzgibbon qui vont arriver avec ces idées-là.
Ça complète. Je dois vous arrêter parce que le temps file. J'en reste encore pas mal pour compléter la semaine. Bonne journée, enfermée, puis on vous retrouve demain.
Salut, Paul.
Au revoir.
Demain, bye.
9h03, la 25, monsieur.